Le texte que tu nous as lu, Armand, nous a occupé à des mois, c'est un peu cet été, puisque c'est un prochain numéro de la revue Promesse, nous nous occupons de consommation. Et il y aura un article précisément sur les versets que tu nous as lus. Et ça m'a fait penser aussi à une autre réflexion que nous avons eue dans ce contexte, c'est « j'ai appris à être content », disait Paul, à la fois dans les privations et l'abondance. Alors, comme tu l'as noté, c'est vrai que nous vivons dans une situation de relative abondance. Et c'est vrai aussi qu'on peut comprendre qu'on apprenne, ou en tout cas qu'il faille apprendre, à vivre dans une situation de pénurie, de difficulté. Apprendre à vivre dans une situation d'abondance, c'est peut-être un peu plus étonnant. Et pourtant, nous avons quelqu'un dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, qui nous donne une bonne leçon sur comment apprendre à vivre dans l'abondance. Parce que lui, il a eu une abondance extraordinaire, et d'abord, il nous présente l'expérience de la frustration par rapport à cette abondance. Et donc, je vous propose de lire quelques versets dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 2 et au verset 1. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 1. C'est l'Ecclésiaste, qu'on appelle aussi Coélète, par la translittération directe de l'hébreu, qui s'exprime. Et peut-être vaut-il la peine de lire déjà le chapitre 1, verset 12. « Moi, l'Ecclésiaste, moi, Coélète, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. » Chapitre 2, verset 1. « Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaie la joie et tu goûteras au bonheur. » J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle ? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin, tout en me conduisant avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qui est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans de grandes entreprises. Je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières, j'ai acheté des serviteurs et des servantes, j'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait plaisir, le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils réclamaient. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis, j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. C'est un peu un terrible constat que celui que fait l'Ecclésiaste, parce que l'Ecclésiaste se place dans la situation de quelqu'un qui peut finalement faire tout ce dont il a envie, qui a une abondance que Paul n'a jamais connue. On peut en être à peu près sûr. Et la leçon que nous donne cette Ecclésiaste, et c'est pour cela que c'est dans la Bible, c'est que ça nous permet de répondre à cette question que nous nous posons. Ah, si j'avais ça en plus, si j'avais un tout petit peu plus d'abondance, oh, pas beaucoup plus, quelques mètres carrés, un nouvel iPhone, je ne sais pas, un conjoint qui soit plus attirant, un voyage avec puisse aller en voyage ici ou là, etc. Et nous sommes abreuvés d'un contexte où on nous pousse à penser ça. On nous pousse à penser que si jamais il y avait ce truc-là en plus, eh bien alors là, on serait dans l'épanouissement. Alors là, ça irait bien. Et donc, on a ce contexte dans lequel nous vivons, qui est un contexte assez terrible dans un sens, avec cette pression constante pour nous dire « il te manque un petit truc en plus ». Et puis après, là, ça pourrait aller bien. Et je pense que dans sa sagesse, Dieu a permis que nous ayons dans la Bible quelqu'un qui pouvait avoir ce petit truc en plus, et puis deux petits trucs en plus, et puis 100 petits trucs en plus, et puis 700 femmes, 300 concubines. Voilà. Et il a pu avoir tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de noter que dans le début de ce paragraphe, j'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie. On voit que Salomon va expérimenter tout cela à la fois dans une optique, je dirais, raisonnable, intelligente, on dirait peut-être un peu raffinée, culturellement valable, etc. Et puis dans l'excès, dans la folie. Voilà. Et donc ça nous montre que ce n'est pas qu'il y aurait une voie, je dirais, un peu supérieure, un peu culturellement valide, un petit peu intelligente d'aller dans cette accumulation du toujours plus. Et puis il y aurait une voie un peu folle de vraiment aller dans les excès absolus. Parce qu'il y a peut-être aussi cela dans notre esprit quelque part, de nous dire, eh bien, ok, il y en a qui font n'importe quoi, qui vont dans les excès les plus critiquables, mais il y a ceux qui abordent les choses de façon plus raffinée, peut-être de façon plus présentable. Et Salomon, si c'est lui, a exploré ces deux pistes-là. Et il les a explorées, et la conclusion en est la même. Ou pour le dire différemment, ne pensons pas que parce que nous évitons certains excès grossiers et que nous avons des aspirations à un peu plus, mais du bon côté, du côté qui est socialement reconnu dans le groupe dans lequel nous sommes, etc., ça va satisfaire notre cœur. Absolument pas. Alors, par rapport à ces aspirations que nous pouvons avoir d'un petit peu plus, ce qui est intéressant, c'est que l'Ecclésiaste a exploré un peu toutes les pistes. Parce que nous ne sommes pas sensibles à toutes les pistes. Il y en a certains pour qui une belle bagnole, ça parle absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas du tout leur truc, la voiture. Il y en a d'autres, vous avez vu la Ferrari qui passe. Voilà. Donc on voit bien que nous ne sommes pas sensibles à la même chose. Jacques, dans son épître, nous dira que chacun est amorcé par sa propre convoitise. Donc la convoitise de l'un n'est pas la convoitise de l'autre. Elles sont spécifiques à chacun de nous. Et ces convoitises-là, si elles sont nourries, si elles sont entretenues, nous dit Jacques, eh bien elles produisent la mort. Alors, quelles sont les convoitises que l'Ecclésiaste parcourt, en fait, dans son chemin de vie, là où il va dans tous les excès. Eh bien, d'abord, les plaisirs, je dirais, un peu basiques, les plaisirs de la chair. On peut le voir ici, symbolisé par le vin. Le vin, ça s'enivre, donc un petit peu la consommation de produits qui font partir. Derrière le vin, on pourrait aussi mettre la drogue, on pourrait mettre 36 000 trucs. Et que ce soit avec modération, comme nous dit la publicité, ou sans modération, puisque ça a été avec sagesse et avec folie qu'il a testé les deux. Dans les deux cas, le résultat est le même. Ça peut être aussi les possessions matérielles. Alors, vous avez vu que Elon Musk a une fortune qu'on estime, alors après ça varie chaque jour que la bourse fait, mais à 1000 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire 1000 milliards de dollars? Ça veut dire un tiers du PIB de la France. Ça veut dire quoi? C'est des chiffres qui dépassent l'entendement. Voilà. Et alors, qu'a fait l'Ecclésiaste? Alors, à son époque, il n'y avait pas New York Stock Exchange, donc il a construit des maisons. Il a construit des maisons, des parcs, des vignes, des jardins, des vergers, des fruitiers de toutes espèces. Donc il a construit énormément de maisons. Quand nous avons étudié le livre des rois, nous avons vu que Salomon avait mis 7 ans pour construire la maison de Dieu et qu'il avait mis 13 ans pour construire sa propre maison et que sa propre maison était plus grande en dimension que le temple de l'Éternel. Mais vous avez remarqué qu'il est beaucoup question de jardin. C'est un peu étonnant. Pourquoi il est question de jardin dans... Alors c'est vrai que les jardins, c'est sympa. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans des très beaux jardins. Alors, nous, on a le parc de Versailles à deux pas, mais même des jardins de maisons privées. Je me rappelle, au bord des lacs italiens, il y a des jardins. La maison Tarantino à Vervagna, c'est absolument incroyable, ce jardin qu'il y a. Mais il me semble que si on a cette idée de jardin, ce n'est pas neutre. C'est que parce que ça pointe vers le jardin initial du jardin d'Éden, ce jardin de délices dans lequel Dieu avait placé l'homme et dont l'homme a dû être chassé. Et donc, il y a sous-jacent dans cette recherche constante de l'être humain, et c'est sans doute pour cela que dans ce chapitre, on a tant de fois des sujets où il y a une insistance si forte sur les jardins et les vergers, etc., pour nous dire, ben oui, effectivement, on veut retrouver l'Éden perdu. On veut retrouver cette satisfaction qui était celle du premier être humain. Et puis, il y a les satisfactions, je dirais, sexuelles. On voit la façon dont d'ailleurs le Qohélète tourne les choses. Hein. Verset 8, « J'ai amassé de l'or de l'argent et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. » Alors ça, c'est vrai que d'aucuns feraient remarquer que c'est le point culminant du masculinisme, du machisme, du patriarcat, de vouloir comme ça accumuler un harem rien que pour soi. Donc il a eu toutes les femmes qu'il voulait. Il a même pu réaliser, parce qu'on peut se dire, oui, mais en fait, on peut trouver la satisfaction peut-être dans, pas simplement dans ce qu'on possède, mais aussi dans ce qu'on fait. Et c'est ce que l'Ecclésiaste a expérimenté. Je me suis lancé dans de grandes entreprises, verset 4. Donc, il a cherché la satisfaction aussi dans le travail qu'il faisait, pas simplement dans le fait de posséder une maison, mais aussi peut-être de construire les plans, enfin de surveiller le chantier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais voilà, ces grandes entreprises dans lesquelles il s'est impliqué lui-même. Et puis, les richesses démesurées. Alors là, c'est absolument incroyable, plus que tout ce qui était avant moi, les richesses des rois et des provinces, etc. Et puis on peut dire, oui, ok, il y a les richesses, mais il y a aussi le pouvoir, parce que certains ne sont pas très intéressés par le sexe, ils ne sont pas très intéressés peut-être par les richesses, l'argent, mais ils sont intéressés par le fait d'avoir du pouvoir. Et ça, c'est aussi ce que Qohélète a eu, verset 9, « Je suis devenu grand ». Plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem. Donc il a tout eu, quels que soient les axes dans lesquels on veuille regarder l'abondance, il a vraiment tout eu, cet ecclésiaste. Et pourtant, il a été complètement frustré. Parce que ce que nous démontre ce chapitre, et c'est la conclusion que nous avons, j'ai considéré les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Voici, tout est, pour reprendre une traduction classique, vanité et poursuite du vent. Ça n'a pas de poids, une vapeur, ce terme qui est caractéristique de ce livre, cette vanité, cette vapeur qui est là. Et il n'y a aucun avantage à en tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors donc, nous avons besoin de nous rappeler les leçons de l'Ecclésiaste, que quand nous avons envie d'avoir un petit peu plus, eh bien, nous pouvons être sûrs que ça ne nous satisfera pas. Plus tard, dans le livre, l'Ecclésiaste a un principe très souvent revenu à l'esprit quand on avait des cours d'économie, à propos de cette insatisfaction permanente des besoins, qui est un principe économique de base, et qui est celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et on en veut. Il ne faut pas croire que parce qu'on aura un salaire qui va doubler, ça va satisfaire. Il y a une histoire qui m'a beaucoup frappé dans les années 90. Le PDG le mieux payé de France à l'époque, alors c'était l'époque du franc, gagnait 50 millions de francs par an. Il était payé 50 millions de francs par an. Et il a fait payer par sa boîte la réfection de sa salle de bain perso pour 150 000 francs. 150 000 francs, c'était 3% de ce qu'il gagnait par an. 0,3%. 0,3% de ce qu'il gagnait par an. Et pour 0,3%, il a fait payer le chèque de la réfection de sa salle de bain par sa boîte. Moyennant quoi ? Bah, il a été viré. Voilà. Il a voulu économiser 0,3% alors qu'il gagnait 50 millions. Voilà. Donc ça montre, et plus près de nous, PDG d'une célèbre société automobile qui a fait payer aussi son mariage par sa propre boîte, alors qu'il était le mieux payé des patrons français lui aussi. Et je me rappelle être allé à l'Assemblée Générale de cette société qui est bien connue par certains d'entre nous, et d'avoir vu son sourire de carnassier quand on a validé en Assemblée Générale son salaire annuel. C'est passé assez juste d'ailleurs. J'avais voté contre, bien sûr, en tant que caisse des dépôts, mais c'était passé assez juste, mais 57%, c'était bon, il avait eu. Et on voyait, il avait le pouvoir, et c'était l'homme le plus considéré de la planète automobile, il avait une rémunération énorme, et pourtant, il en voulait toujours plus, il avait été. On le voyait tellement content de l'augmentation qu'il avait pu avoir de son salaire. Donc, tout ça, c'est pour dire que le petit plus, eh bien, on en voudra toujours un petit peu plus. Et pareil aussi dans les satisfactions sexuelles. Là, si Salomon, 700 femmes, 300 concubines, vanité des vanités. On dit qu'il y a un joueur de, je sais plus si c'est de baseball ou de basketball américain qui se vantait d'avoir eu 20 000 femmes dans son lit. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Mais de toute façon, comme l'a dit un critique de la pièce, de la célèbre pièce de Molière de Don Juan, on n'a jamais vu Don Juan heureux. Ça n'existe pas. Et donc, inutile aussi de vouloir chercher l'accomplissement dans les plaisirs raffinés, puisque que ce soit, ça on le trouve juste avant au verset 17 du chapitre 1, quand l'Ecclésiaste dit « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse ». Voilà, la sagesse, la connaissance, etc. « Mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance, etc. J'ai augmenté et développé la sagesse plus que tout ce qui a dominé avant moi sur Jérusalem, etc. » Et même sur ce plan-là, eh bien, on ne trouvera pas de satisfaction. Alors pourquoi ? Eh bien, la réponse, c'est l'Ecclésiaste lui-même qui nous la donne au chapitre 3. Il nous la donne au chapitre 3, quand il dit au verset 11, au milieu du verset 11, à propos de Dieu, il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Parce que ce qui se passera, c'est que nous n'aurons jamais une pleine satisfaction parce que justement, Dieu a mis dans le cœur des êtres humains cette pensée de l'éternité. Cette pensée de l'éternité, ce sens de l'infini qui fait que, comme le disait autrefois Augustin, tu nous as fait pour toi, ô Dieu, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en toi. Quand j'étais petit, on chantait un cantique, « Seul Jésus satisfait le cœur, seul ferme et son appui, l'amour, la paix, la joie et le bonheur ne se trouvent qu'en lui. » Et notre cœur est trop grand pour pouvoir être rempli même par 1000 milliards de dollars, même par 20 000 nanas dans son lit. Ça ne marchera pas. Alors, est-ce que l'Ecclésiaste nous permet d'aller un cran plus loin ? Oui, puisque l'Ecclésiaste présente les choses sous le soleil, présente l'expérience humaine indépendamment de la révélation de Dieu, mais il introduit de temps en temps Dieu. Et à la fin de son livre, la conclusion qu'il nous donne au chapitre 12, il vaut la peine de l'entendre. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Donc la conclusion à laquelle arrive l'Ecclésiaste, et il s'arrête là, c'est qu'il y a un Dieu et qu'il faut le respecter, respecter ce qu'il nous dit. Je compare parfois l'Ecclésiaste, si vous voulez, au hall d'entrée d'un grand palais. Vous pouvez vous représenter les 66 livres de la Bible comme un immense palais, avec des pièces décorées de façon différente. Et l'Ecclésiaste, c'est comme si c'était le hall d'entrée. On entre et on voit dans cette première pièce ce que Dieu nous présente de la vie sous le soleil, sans révélation spécifique. Et c'est l'expérience que l'Ecclésiaste nous présente. Et on approche de la porte qui permet de rentrer dans le palais lui-même. Et sur cette porte, il y a cette inscription « Crains Dieu ». Et ensuite, il y aura différentes pièces. Le livre des Proverbes nous dira que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, c'est la base de toute réflexion, etc. Et dans maints endroits dans la Bible, on a cet aspect de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu? Ça ne veut pas dire en avoir peur. L'apôtre Jean, dans un des derniers livres qui seront écrits dans une des dernières pièces de ce palais, si je puis dire, dira que l'amour parfait chasse la crainte, parce que Dieu se révèle comme amour. Mais garder ses commandements, ça c'est effectivement quelque chose que Dieu nous demande de faire. Donc, l'Ecclésiaste nous amène à cette crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Et il nous amène aussi à nous dire, c'est pas la peine de prendre l'excès inverse. Parce que bien souvent, dans notre vie, on oscille d'un excès à l'autre. Et certains chrétiens, faisant le constat que effectivement, ils n'étaient pas satisfaits par la débauche sexuelle, par l'accumulation, etc., sont allés dans l'excès inverse et ont voulu se dépouiller de tout. Alors que l'Ecclésiaste nous dit à maintes reprises, eh bien, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses dans ce que Dieu a créé sous le soleil. Mais nous avons à les recevoir d'abord et avant tout de Dieu. C'est pour cela que l'Ecclésiaste ne nous pousse pas explicitement ou même implicitement vers l'ascétisme, vers le rejet de tout ce que Dieu peut donner de bon. Pas du tout. Il nous invite à le recevoir de Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs versets dans ce livre qui reprennent les différentes catégories de notre chapitre 2, là, qui ont écœuré Coëlette, mais dans le sens positif. Par exemple, sur le travail, nous avons ce verset, « Les justes et leurs sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu », chapitre 9, verset 1. Par rapport à la richesse, chapitre 5, verset 19, nous dit, Ecclésiaste 5, 19, nous dit, c'est verset 18, et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger et d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas que les choses aient changé, mais l'optique selon laquelle on les regarde a changé. C'est que ce que Dieu me donne aujourd'hui, et là on s'approche un petit peu de notre texte de Philippiens 4 et de Paul, eh bien je le reçois comme un cadeau de Dieu. Comme un cadeau de Dieu. On introduit Dieu dans ce que il nous donne, plutôt que de rester là. Et c'est pareil aussi si on prend les questions conjugales. C'est chapitre 9, verset 9. Chapitre 9, verset 9. « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie, sans consistance, que Dieu t'a donné sous le soleil. » Que Dieu t'a donné. Donc d'abord, c'est la femme. Hein, vous remarquerez, ce n'est pas 300, 700. C'est la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie que Dieu t'a donné. Dieu nous a donné, pour certains d'entre nous, le privilège d'avoir un conjoint avec lequel on peut vivre. Cette relation est temporaire. C'est pour cela que l'Ecclésiaste dit bien que c'est pendant la durée de ta vie, mais c'est quand même quelque chose que Dieu a donné. Donc, l'Ecclésiaste nous permet d'avancer un cran plus loin pour voir que nous pouvons éprouver tout ce qu'il nous donne de façon positive, comme un bienfait de sa part. Mais l'Ecclésiaste est aussi réaliste. Et il sait que, comme nous l'avons dit peut-être au début, que les choses ne sont pas toujours positives, qu'il n'y a pas toujours du travail en abondance, qu'il n'y a pas toujours de la richesse, qu'il n'y a pas toujours une vie conjugale épanouie, etc. Et alors, il a ce verset au chapitre 7, verset 14. Chapitre 7, verset 14, il pourrait être un petit peu du stoïcisme, mais je pense que c'est intéressant de se pencher quelques secondes là-dessus. « Le jour du bonheur sois heureux, et le jour du malheur réfléchi. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. » L'Ecclésiaste nous dit par là que les circonstances, c'est Dieu qui les dispose dans sa souveraineté, mais que nous n'avons pas à nous préoccuper de savoir exactement pourquoi c'est comme ça, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. Ou, comme on peut le traduire aussi un peu différemment, selon une autre traduction qui nous dit de façon, Dieu envoie le bonheur ou le malheur de façon à ce qu'on ne sache jamais ce qui va arriver. Parce que les fortunes, ça va et ça vient, parce que le travail, ça va et ça vient, parce que la vie conjugale, ça peut aussi aller et venir, etc. Et l'Ecclésiaste s'arrête ici. Alors, comme souvent, je trouve très utile de mettre en relation l'Ecclésiaste avec quelques textes du Nouveau Testament. Et en particulier, et c'est ce qui m'y a fait penser, ce beau texte de Philippiens, chapitre 4, versets 10 à 14, que nous avons lu tout à l'heure. Parce que là, nous avons Paul qui nous dit « Je sais vivre dans la... j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Comment Paul peut-il dire cela? Parce que il sait que les leçons de l'Ecclésiaste sont vraies. Est-ce que Paul a cherché d'avoir plein de femmes, à avoir de beaux jardins? Non, il a cherché autre chose. Et quelque part, je dirais que c'est encore plus subtil. Et ça, nous le trouvons au chapitre 3 de cette même lettre aux Philippiens. Il a cherché à être le numéro un en piété. Voilà. Hébreu des Hébreux, de la tribu de Benjamin, élevé au pied de Gamaliel, il cochait toutes les cases. Il jeûnait quand il fallait jeûner, il faisait tout ce qu'il fallait au temple, etc. Et est-ce que cette recherche-là, qui finalement n'est pas si différente au fond de la recherche de quelqu'un qui voudrait accumuler plein de choses, c'est peut-être un peu plus présentable en Église, c'est peut-être un peu plus raffiné, mais au fond, c'est pareil. On cherche un peu plus, toujours plus, pour soi. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que sur cette route de Damas, Paul a été arrêté et qu'il a réalisé que Dieu avait mis dans son cœur cette pensée de l'éternité. Et que cette pensée de l'éternité, ce n'était pas son observance rigoureuse de la loi de Moïse, ce n'était pas l'apprentissage très, très solide et très sérieux de toutes les interprétations de Gamaliel de la loi, etc., qui allaient remplir son cœur. Non. Et c'est ce qu'il nous dit au chapitre 3, dans des expressions qui sont d'une force incroyable. Chapitre 3, verset 9. Tout cela, j'ai considéré comme des ordures afin de gagner Christ. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Christ s'est emparé de moi et je cours pour tâcher de m'en emparer, etc. Et on voit combien l'apôtre Paul, dans cette lettre, est rempli de son Seigneur. Déjà au chapitre 1, il pouvait dire « Pour moi, vivre, c'est Christ ». Et c'est pour cela qu'il peut progresser dans ce chemin du chapitre 10. Et alors c'est vrai que quand on réfléchit sur ces textes, franchement, en tout cas, ça a été ma propre réflexion, on se sent vraiment tout petit. On se dit, j'ai appris, dit Paul. Paul dit ça, il est en prison à Rome, peut-être c'est l'an 63, ça fait peut-être à peine 30 ans qu'il marche avec le Christ. Il a dû être converti, je pense, vers l'an 34. Donc, mettons, ça fait une trentaine d'années qu'il marche avec le Christ. Et il a appris. Il a appris. Paul était peut-être à l'université, à cet apprentissage. Franchement, je me sens souvent en maternelle. Mais il a appris. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps peut-être pour lui d'arrêter de considérer la loi et Jérusalem et le temple comme étant important. Ça, il faudrait relire le livre des Actes. Pour d'autres, ça va être cet apprentissage, ça va être un peu long pour se dire que c'est pas le truc, l'objet en plus qui va satisfaire, c'est pas d'avoir un peu plus de pouvoir, c'est pas d'avoir un peu plus de satisfaction sexuelle ou que sais-je, qui va aider. Nous sommes tous en apprentissage. Nous avons tous besoin d'apprendre. Mais pour pouvoir apprendre, il me semble qu'il faut d'abord et avant tout considérer ce que Paul nous présente dans les chapitres précédents, cette pensée de l'éternité, celui qui habitait l'éternité et qui est venu sur terre, Philippiens 2, versets 5 à 11, pour s'abaisser et pour ensuite être élevé à la droite de Dieu, afin que tout genou fléchisse devant lui. Et c'est quand nous aurons été toujours plus saisis par la beauté de Jésus-Christ, comme Paul avait été saisi, avait été empoigné, si on peut dire, par le Christ, que alors les choses vont se mettre en place et que l'apprentissage, petit à petit, se fera dans notre cœur. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Celui qui a composé ce chant, finalement, il avait tout compris à cet apprentissage de Paul.